Bonjour et bienvenue sur Parole d'Humanitaire, le podcast fait par l'humanitaire pour les travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, humanitaire spécialisée en projet d'aide au développement et à l'origine de cette initiative. Dans ce podcast, je donnerai la parole aux acteurs et actrices de terrain pour décrypter les nombreux enjeux de l'humanitaire et de la solidarité internationale, mais aussi pour découvrir les différents domaines d'intervention. Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers liés à ces domaines. Au programme de ce podcast, découverte, partage de connaissances et retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes ensemble? C'est parti! Bonjour Mathilde! Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast Parole d'Humanitaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire plus sur votre domaine d'expertise et votre expérience?
Bonjour Asma, merci beaucoup pour l'invitation à ce podcast. Moi je suis Mathilde et je suis actuellement responsable des subventions pour une ONG française. Donc je m'occupe un peu de tout ce qui est suivi contractuel avec les bailleurs, communication et engagement bailleur. Je m'occupe de tout ce qui va toucher au reporting, la rédaction, revue des rapports et des propositions de projets. C'est assez transversal, on travaille beaucoup avec le département finance, les départements programmes.
Ben, merci beaucoup pour cette présentation et pour entrer un peu dans le vif du sujet. Qu'entend-on exactement quand on parle de crise oubliée dans l'humanitaire?
Alors moi, à mon sens, ce que j'entends par crise oubliée dans l'humanitaire, ça va être en général des crises qui durent depuis longtemps en fait, des crises assez chroniques qui perdurent dans le temps. C'est des crises qui vont manquer en fait de visibilité médiatique, de financement. C'est souvent des crises qui vont être aussi multisectorielles, qui vont être liées en fait à plusieurs problèmes, plusieurs secteurs. Donc en fait ces crises, elles perdurent depuis tellement longtemps dans le temps qu'on finit par, entre guillemets, les oublier. Il y a moins d'attention au niveau politique ou médiatique.
Et du coup, qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs qui viennent expliquer justement que ces crises ou qu'une crise devienne oubliée ou alors peu médiatisée par rapport à d'autres?
Moi, je pense que ces crises-là, ces facteurs en fait qui expliquent le fait que ça soit des crises dites oubliées, il y a beaucoup de facteurs, en fait, je pense, qui sont intrinsèquement liés. Déjà, ça peut dépendre même de la nature de la crise, même si tout est un peu lié, mais crise politique, c'est des crises économiques, des crises sociales. Et en fait, ces facteurs qui font que ce sont des crises oubliées, c'est souvent lié, en fait, à un manque de médiatisation. Bon, je l'ai un peu dit avant, mais c'est vraiment lié à un manque de médiatisation qui peut venir du manque d'accès. Le manque d'accès physique et même le manque d'accès humanitaire à un lieu, à une zone de crise. Et le problème, c'est que quand on n'a pas d'accès, on n'a aussi pas d'accès à l'information. Et en fait, ça engendre une sorte de cercle vicieux. Donc, moins on a d'informations, moins les bailleurs vont être attirés par ce genre de crise. Ça ne va pas être attractif pour eux. Et en fait, les bailleurs institutionnels ne vont pas financer des crises sur lesquelles ils n'ont pas d'informations et sur lesquelles les acteurs humanitaires n'ont pas forcément d'accès. Donc cette baisse des financements dans certaines zones, je pense qu'elle existe depuis longtemps, même depuis avant l'arrêt des financements états-uniens. Pour moi, c'est un peu ça. Il y a une sorte de repriorisation de certains bailleurs. Qui vont aller vers des crises peut-être plus médiatisées et laisser vraiment de côté en fait les crises pour lesquelles on a peu d'informations et peu d'accès.
Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites sur le fait de ne pas avoir d'informations sur certaines crises, quelles vont être les conséquences de cette invisibilisation pour les communautés qui sont affectées?
Bah, les conséquences, elles vont être multiples, mais le problème, c'est effectivement, hein, donc pas de, s'il n'y a pas de financement, il va y avoir beaucoup moins d'opportunités de venir en aide ou d'apporter en tout cas une assistance humanitaire à ces populations. Ça va devenir chronophage, quoi. Ces crises, elles vont perdurer dans le temps et du coup, on va vraiment avoir des crises structurelles qui vont s'installer sur le long terme. Et les populations vont continuer en fait d'avoir des besoins très importants auxquels il n'y aura pas d'accès, les besoins de base, hein, je parle vraiment de l'alimentation, du logement, de l'accès à l'eau, même à l'hygiène. Donc, c'est, voilà, ça plonge en fait les populations dans des situations d'extrême vulnérabilité. Et alors en parallèle, enfin je pense, moi j'ai passé pas mal de temps au Mali, donc en parallèle je pense, pour contextualiser, un pays comme le Mali où il y a énormément d'instabilité, de combats internes en fait avec des groupes armés, indirectement ça va aussi encourager les combats et nourrir encore plus l'insécurité auprès des populations qui vont continuer à se déplacer pour fuir en fait le danger des combats. Ça plonge les communautés dans une situation d'extrême vulnérabilité et cette invisibilisation, bah, c'est dangereux parce que ça, enfin voilà quoi, les crises continuent de perdurer avec voilà, manque d'accès à plein de besoins. J'ai pas mentionné la santé, mais ça fait aussi partie des besoins vitaux pour les populations qui, en général, n'ont déjà pas grand-chose.
Bah, merci beaucoup pour ces précisions et merci d'avoir aussi contextualisé pour qu'on puisse un peu mieux comprendre à ce niveau-là les enjeux. Et vous avez parlé aussi un peu des crises qui, entre guillemets, n'attireraient pas des bailleurs. Comment expliquer justement que certaines crises vont recevoir moins de financement qu'elles n'en nécessitent réellement?
Bon, je l'ai déjà un petit peu mentionné plus tôt, mais il y a vraiment l'enjeu de la médiatisation. Et je pense que les bailleurs institutionnels, comme depuis déjà plusieurs années, les enveloppes rétrécissent, même au niveau des bailleurs, et ça bien avant l'interruption, l'arrêt des financements états-uniens de USAID. Les bailleurs repriorisent aussi. Bah les ce ce enfin leur, leur la répartition en fait de leurs enveloppes au niveau des zones et des crises qui sont plus faciles à financer et ça joue sur c'est une question d'accès pour moi avant tout. Manque d'accès et en fait le manque d'accès humanitaire ça joue aussi sur le manque d'acteurs. On n'a pas d'accès, donc les acteurs ne sont pas forcément présents. Bon, je pense à des zones un peu reculées du Mali, mais même en fait au Cameroun ou même en République centrafricaine, où comme il va y avoir des présences de groupes armés, d'un point de vue sécuritaire, en fait, les acteurs humanitaires ne vont pas pouvoir s'établir, ne vont pas pouvoir intervenir, ne vont pas avoir accès aux communautés qui sont dans ces endroits-là. Et le problème, c'est que si l'ONG, elle n'est pas forcément présente de manière opérationnelle dans ces zones-là, même si elle recevait des financements, ce serait jamais assez pour pouvoir s'établir sur le long terme, ouvrir une base, etc., dans certaines zones. Et puis, c'est pas envisageable, en fait, d'un point de vue sécuritaire. Donc, c'est très compliqué. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, bon, voilà, la visibilité médiatique, c'est un aspect, je pense, très important. Et donc, il y a des crises qui vont être beaucoup plus médiatisées, dont on va beaucoup plus parler, comme par exemple ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza. Là, c'est, enfin, en discutant, c'est les deux qui me viennent le plus en tête, qui sont médiatisées. Dont l'accent est mis en tout cas sur le plan médiatique depuis quand même quelques années. Et le problème aussi, c'est que si une crise perdure sur le long terme, elles vont attirer généralement de moins en moins de financement. Parce que le bailleur va se dire, en fait, ça fait 10 ans que l'on finance cette crise dans ce pays et en fait ça continue, donc à quoi ça sert? Et ça malheureusement c'est voilà, ça va être entre guillemets moins, j'ose le dire, moins sexy pour un bailleur de financer, de donner une enveloppe dans un endroit où il n'y a pas d'accès, où on a moins d'informations et où la crise elle est chronophage et elle perdure et qu'on n'arrive pas à en sortir. Que des crises qui vont être plus médiatisées ou des crises entre guillemets ultra urgentes. Enfin, j'ai un tout petit exemple pour contextualiser. Ce qui se passe au Soudan impacte l'est du Tchad, en fait, au niveau de la frontière. Il y a énormément de déplacements de population. Et donc moi, dans le cadre de mon travail, l'ONG pour laquelle je travaille, là, notre mission, on travaille sur le Cameroun, le Tchad et la RCA. Et donc, voilà, cet été, on a eu, enfin l'été dernier, on a eu une épidémie de choléra. Au niveau de la frontière qui est arrivée en fait du Soudan. Et le problème, c'est qu'à l'est du Tchad, ben, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans des camps de déplacés. Et là, on a vraiment eu une crise ultra urgente qui est arrivée en très peu de temps. Et là, on a eu des fonds qui se sont débloqués où les bailleurs sont venus nous voir pour nous dire, bah là, il y a des personnes qui souffrent le choléra, qui n'ont rien. Et il faut, enfin, nous, on vous donne une petite enveloppe, vous faites un projet d'urgence. Et là, il y a vraiment des fonds d'urgence pour le choléra, la crise du choléra, qui sont débloqués. Mais parce que c'était, parce que je veux dire, le Tchad, c'est pareil, c'est, il y a quand même une présence humanitaire au Tchad depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et donc, des fois, bah, voilà, il y a des crises comme ça très ponctuelles pour lesquelles les bailleurs arrivent à développer des enveloppes, des fonds pour des projets vraiment d'urgence. Mais enfin, quand on est plus sur des crises, voilà, sur de long terme qui perdurent. C'est pas forcément là où les bailleurs vont aller voir, malheureusement.
Et justement, par rapport à toutes ces difficultés que vous mettez en avant et que j'entends parfaitement, quel changement structurel ou alors opérationnel pourrait permettre au secteur humanitaire de mieux répondre à ces crises?
Bon, il y a déjà des choses quand même qui sont mises en place par les bailleurs et par les ONG. Notamment depuis l'arrêt des financements de l'assistance américaine, il y a vraiment une repriorisation aussi des crises parce que on peut pas tout financer et donc malheureusement on est obligé de reprioriser, ça c'est le premier point. Au niveau des ONG, en tout cas des ONG françaises, il y a une restructuration de l'intervention. Je pourrais développer un petit peu plus. Je pense que l'accent est de plus en plus mis sur la coordination terrain et également sur la localisation. Je peux développer ces quatre points-là. Pour ce qui est de la repriorisation des bailleurs, donc en fait, je m'explique. C'est déjà un peu en train, enfin c'est déjà un peu le cas, mais maintenant là, de plus en plus, on l'a vu pour 2026, où vraiment les bailleurs vont essayer de débloquer des allocations qui vont être vraiment centré encore plus sur les besoins des communautés. Enfin, ça dépend de, pas tous les bailleurs, mais je pense notamment aux bailleurs des agences des Nations Unies ou de l'Union européenne, par exemple, où ils vont vraiment mettre en avant en fait une stratégie. Et en fait, quand ils vont développer leurs appels à propositions, il va vraiment y avoir des axes stratégiques pour lesquels il faut que les ONG répondent. Donc ça, c'est la première chose, et je pense qu'on tend de plus en plus vers ce genre d'interaction entre bailleurs et ONG, où les bailleurs vont vraiment mettre en avant ce qu'ils attendent des acteurs humanitaires. Ensuite, pour la restructuration, en fait, les ONG ont perdu beaucoup d'argent, ont perdu beaucoup de personnel. Et donc, elles ont été obligées de rebondir et donc de restructurer un peu leur logique d'intervention de manière globale. Je pense par exemple à un peu le rassemblement de plusieurs missions pour essayer de garder en fait le plus de ressources de ressources humaines. C'est vraiment ce qui se passe en tout cas au niveau des ONG françaises, mais je pense pas que françaises, mais ça va être de vraiment essayer de plus travailler un peu en hubs régionaux, de rassembler certains pays pour essayer de garder le plus de ressources humaines possible et aussi d'optimiser leur financement. Donc pour essayer de maintenir toutes les bases en vie, de pouvoir continuer les opérations, etc. quoi. Et le troisième point, j'avais parlé de la coordination. Ça, c'est quelque chose qui est de plus demandé aussi, de plus en plus demandé de la part des bailleurs, la coordination terrain entre ONG. Par exemple, Bon, moi, là, en ce moment, je travaille sur l'extrême nord du Cameroun, où donc il y a la présence de certaines ONG et il y a des ONG qui ont une forte acceptation locale, communautaire, etc., et qui sont très bien vues auprès des bailleurs. Et donc, en fait, les bailleurs vont dire, OK, donc là, il y a cet acteur de santé, il y a cet acteur de WASH. Accès à l'eau. On veut que vous fassiez un projet ensemble en consortium pour pouvoir agir en complémentarité au maximum. Comme ça, eux, ça les arrange parce que du coup, ils vont financer un projet et pas deux. Et du coup, ils vont pouvoir donner une plus grosse enveloppe. Donc, ça va être vraiment l'action un peu plus, je pense, de plus en plus en consortium avec des partenaires locaux et aussi. Bon, voilà, juste coordonner, communiquer avec les autres acteurs qui sont présents sur le terrain, vous êtes dans quelle zone? Parce que nous, on voudrait faire ça dans cette zone-là, mais si vous êtes déjà présent, alors on va faire autre chose en complémentarité et on va aller plutôt dans cette zone plus au sud, etc. Donc ça, bon, on tend déjà vers ça depuis un petit moment, mais je pense que c'est ce qui va encore plus se développer maintenant que les enveloppes rétrécissent et encore plus pour les zones où on a des crises dites oubliées parce que ben il faut optimiser l'argent. Enfin c'est terrible, mais c'est comme ça quoi. Et bien sûr, il y a la localisation où ça, bon, ça c'est déjà en cours aussi hein, depuis un temps, mais c'est très important pour les bailleurs de pouvoir vraiment renforcer les capacités des acteurs locaux parce que ça va permettre en fait une durabilité de l'action humanitaire sur le terrain, au niveau des localités, etc. Donc c'est très très important maintenant pour les bailleurs. Il y a plein de projets d'ailleurs dont on n'a pas les financements si on n'a pas de partenaire local en fait qu'on inclut dans le projet et auquel on renforce certaines capacités. Ça peut être des gestion financière ou logistique, même certainement des fois technique ou enfin programmatique, technique. Ça dépend vraiment du projet, du mandat des acteurs, etc., quoi. Donc ça, bon voilà, c'est des changements qui tendent et je pense qu'ils vont être renforcés pour pouvoir pallier en fait ce manque d'argent et ce manque de présence des acteurs.
Bah, merci beaucoup Mathilde d'avoir pris le temps de détailler ces différents points pour nous aider à mieux comprendre les enjeux. Et enfin, pour terminer, pour revenir un peu sur tout notre échange, quelle démarche aujourd'hui pourrait aider à améliorer la visibilité de ces crises-là et encourager à plus de mobilisation autour?
Bon, je pense que pour améliorer la visibilité de ces crises, bon, l'élément le plus important, moi, je pense, c'est vraiment de pouvoir, ça serait de renforcer en fait les actions de plaidoyer. Je pense qu'on globalement, c'est très compliqué, mais on ne communique pas assez en fait sur les crises et sur les besoins précis en fait des populations. On est très, vous savez, on est très dans le sensationnel quand on parle de certaines crises, mais concrètement en fait, qu'est-ce qui se passe et concrètement, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour essayer d'améliorer la situation. Les gros, gros acteurs humanitaires arrivent à le faire, mais de manière globale, il y a vraiment tout un plaidoyer à renforcer pour attirer en fait, pour attirer la médiatisation, pour attirer je sais pas, les acteurs politiques, pour que vraiment ça soit intégré en fait que, bon, voilà, il se passe ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'améliore? Parce que, en fait, on pense au niveau local, mais il y a plein de crises qui ont des répercussions régionales, géopolitiques, même au niveau mondial. Et ça, on n'arrive pas trop en fait à le penser de manière trop globale. Donc, je pense que voilà, renforcement du plaidoyer, c'est vraiment ce qu'il faut développer. Le plus pour attirer l'attention et peut-être mettre davantage l'accent sur l'écart en fait entre les besoins humanitaires et les financements disponibles. Parce que je pense que voilà, si les gens réalisaient, ok, il y a des milliers de personnes dans cette zone-là qui n'ont pas accès aux douches, aux toilettes, à la nourriture. Qui n'ont pas leurs calories journalières, etc. Et pour arriver à ça, il nous manque tant d'argent. Je pense que ça, voilà, En fait, il y a certaines ONG qui ont déjà des outils comme ça, mais c'est beaucoup plus impactant que juste dire, OK, tant de personnes sont dans le besoin. Bon, très bien, ça veut dire quoi être dans le besoin? C'est très compliqué en fait. Je pense que ouais, plus d'écrire ce qui se passe réellement et plus donner la parole aux communautés en fait. Mais ça, c'est bon, voilà, c'est plaidoyer, mais c'est aussi tout un travail de communication que les ONG, à mon avis, ont besoin de développer. C'est pas quelque chose qu'on prend trop le temps de faire malheureusement sur le terrain parce que bah, y a plein de priorités. Et
Je comprends
c'est un peu
totalement.
ça.
Je vous rejoins, c'est vrai, peut-être humaniser un peu plus, entre guillemets, ces
C'est
crises-là, ou
ça.
comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus important de se dire, ben, il y a tant de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes. Enfin, cette crise-là, voilà comment elle impacte directement sur le terrain, plutôt que de
Tout
faire
à
une
fait.
affiche et de dire, ah, il y a une crise à tel endroit, faites des dons ou parlez-en autour de vous. On se sent, enfin, en tout cas, moi, je sais que je me sentirais beaucoup plus concernée d'avoir vraiment une vision humaine d'une crise. Enfin,
Bien
pas plus
sûr, ouais.
concernée, mais plus interpellée d'avoir une vision humaine d'une crise que juste une simple affiche ou des chiffres avec des pourcentages.
C'est ça, effectivement, c'est vraiment ça, c'est vraiment humaniser un peu le discours humanitaire, et enfin exactement, et vraiment sortir du sensationnel en disant, enfin des fois il y a des discours qui sont quand même un peu misérabilistes aussi, et non, enfin voilà, c'est vraiment dire, ben ok, cette personne, peut-être elle fait 500 mètres pour aller chercher 3 litres d'eau, elle les rapporte chez elle, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ouais, vraiment renforcer le discours et en humanisant davantage. Au niveau, en tout cas, au niveau du grand public, je pense que ça, voilà, c'est ce qu'on recherche un peu à faire, mais bon, il y a encore
Un peu de
des
travail,
choses
quoi,
à mettre en place,
à
ouais.
améliorer, c'est ça. Bon, en tout cas, Mathilde, merci beaucoup d'avoir donné de votre temps pour pouvoir parler en
Merci
détail de ce
beaucoup.
sujet et d'avoir contextualisé avec des exemples et d'être partie vraiment dans le vif du sujet en développant tous ces points.
Merci beaucoup, Asma, pour l'invitation. C'était un plaisir.
Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Paroles d'Humanitaire pour en découvrir d'autres. Et n'hésitez pas à soutenir cette initiative en la partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Paroles d'Humanitaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.